Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Pour inaugurer cette nouvelle saison, le Labomatique ne pouvait passer à côté de l'événement majeur de cette rentrée 2014-2015 en matière de vulgarisation scientifique, à savoir le Festival des sciences, organisé par l'Espace des sciences. Depuis 23 ans maintenant, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fête les sciences dans toute la France, et c'est pour la 9e année consécutive que la métropole rennaise s'y associe. Jusqu'au 19 octobre, le festival propose plus de 130 événements sur l'ensemble des communes de Rennes Métropole, avec la volonté de rendre accessibles les travaux des chercheurs locaux à l'ensemble des citoyens. Fêter les sciences, d'accord, mais de quelles sciences parle-t-on? Et selon quel format de diffusion des connaissances? Direction le village du festival, à Chartres de Bretagne, pour tenter d'en savoir un peu plus.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Pour nous présenter les enjeux du festival, le Labomatique est allé à la rencontre de Danielle Zumfolo, coordinatrice de la Fête des sciences, et Sandy Lanoé, coordinatrice des événements.
Bonjour, donc le Festival des sciences cette année est sur 3 semaines. C'est une nouveauté, on s'est donc fixé par rapport aux dates nationales de la Fête de la science. Donc ce sera 3 semaines de festivités sur 39 communes de Rennes Métropole et d'Ille-et-Vilaine. On a des nouvelles communes qui participent cette année, dont Bécherel avec la Maison du Livre. On les remercie fortement d'accueillir donc des scientifiques cette année.
Très bien, quelles sont les ambitions pour le festival? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une question d'accessibilité de la science au plus grand nombre?
Pas simplement d'accessibilité de la science, c'est aussi informer les jeunes des différents métiers aussi qui existent. Parmi la recherche, ils sont très diversifiés et souvent les jeunes ne connaissent pas tous les métiers qui peuvent exister dans ces domaines.
On va peut-être partir plus spécifiquement sur le village des sciences. Comment va-t-il s'inscrire en fait dans les deux, trois semaines de festival et à quoi va-t-il servir?
Alors le village des sciences, sert de lancement au Festival des sciences. Que c'est un moment très fort où on réunit dans un seul même lieu une cinquantaine de stands et d'exposants avec une majorité de chercheurs, de doctorants, d'étudiants de grandes écoles. Donc c'est quand même un moment très fort et ce qui permet après d'avoir des animations, des expositions, des conférences dans différentes communes et des films tout au long des 3 semaines.
Étant donné que la rentrée des classes s'est effectuée récemment aux deux universités que sont l'université Rennes 1 et Rennes 2, avez-vous pensé à des dispositifs un peu particuliers pour accueillir éventuellement des étudiants en première année de licence ou seconde année de licence?
Oui, malheureusement, on voulait les accueillir plutôt en soirée le vendredi, mais bon, c'est vrai que avec le week-end et les étudiants qui repartent chez eux, c'est pas toujours très facile. Par contre, les étudiants qui restent le week-end, là, c'est clair que on les accueille à bras ouverts le samedi et le dimanche.
Vous accueillez, j'imagine, des chercheurs qui viennent des universités Rennes 1 et Rennes 2. Y a-t-il une bonne collaboration avec les universités rennaises ou...
Oui, alors bien sûr, au village des sciences, on a vraiment une grosse majorité de l'université de Rennes 1, parce que c'est vraiment, ils ont des choses à exposer. Mais cette année, par exemple, vous trouverez le CELAM de Rennes 2 qui sera présent. Vous avez le laboratoire Loustic aussi qui est présent. Donc on essaye vraiment d'avoir toute catégorie de sciences. Et en général, y a pas mal de sciences représentées, avec aussi les grandes écoles hein, comme Supélec, l'INSA.
On parle de Festival des sciences, mais quelle définition donne-t-on au mot science? Quels sont les types de sciences qui sont représentées lors du festival?
Pour le ministère de la Recherche, c'est la fête de toutes les sciences. Donc on va pas... on accueille toutes les sciences et c'est vraiment important justement de ne pas faire de différence. Les sciences dures, les sciences molles, etc. Ça s'est vraiment dépassé. On accueille toutes les sciences.
On peut passer éventuellement ensuite aux formats qui vont être proposés tout au long du festival, puisque lorsqu'on parle d'accessibilité de la science, on parle notamment de médiation avec les spectateurs. Quels types de formats sont proposés pour rendre la science accessible lors de ce festival?
Tout au long du festival, il y aura des animations, plus pour le public enfant, des animations sur les maths, la chimie ou autres sujets. Et il y aura également des expositions et aussi des conférences qui sont plutôt données en soirée pour un public plutôt adulte, plutôt averti parfois, tout dépend du sujet. Nous avons également des films, des projections, suivies pour la plupart d'une rencontre avec un connaisseur sur le sujet pour pouvoir échanger à la suite de la projection. Tout format existe et également aussi des portes ouvertes de laboratoire et aussi des visites en ville, Rennes, Ville en Sciences par exemple ce week-end prochain.
Qu'on pourra éventuellement trouver des parcours un peu d'itinérance en mobilisant un peu les lieux emblématiques de la culture scientifique sur Rennes.
Tout à fait. Ça peut être aussi sur le sujet de l'archéologie, donc les recherches qui se font au niveau de Rennes.
Qu'est-ce qu'être chercheur aujourd'hui? Est-ce que c'est l'une des ambitions du festival aussi de réfléchir aux conditions de production de la science?
Oui, et c'est vrai que sur les stands du Village des Sciences, souvent les chercheurs sont là pour vous parler aussi de leur quotidien, de leur formation, de leur parcours, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment on arrive à être chercheur, comment, par exemple, je pense à quelqu'un de l'IETR qui vraiment, lui, essaye de voir quels sont les besoins dans la population pour essayer de trouver des solutions et après faire des brevets et que ça aille, ça retourne, si vous voulez, au public. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi le cursus qu'ils ont et les difficultés aussi sur les différents stands et même en dehors, ce sont toujours des équipes. Le chercheur n'est jamais tout seul et vraiment, il travaille avec une équipe souvent pluridisciplinaire avec différents organismes de tutelle.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Curieux de découvrir les travaux présentés dans le village, nous avons déambulé au travers des stands et des étals pour faire parler les chercheurs sur leurs activités. Si toutes les disciplines ne disposent pas des mêmes outils pour diffuser le fruit de leurs travaux, les spectateurs, et notamment les étudiants, pourront tout de même échanger avec des chercheurs confirmés, mais aussi de nombreux doctorants. Pour vous, le Labomatique s'est intéressé à 3 laboratoires présents sur le festival. Allons donc à la rencontre de Christine Rivalan, directrice adjointe du Centre de littérature et langues anciennes et modernes de l'Université Rennes 2.
Le CELAM, c'est un laboratoire de recherche, donc une équipe d'accueil. Nous avons souhaité être présents sur le village des sciences, bien que, comme vous le remarquez, nous sommes un petit peu l'intrus dans cette manifestation, puisque ce que nous présentons, c'est de la recherche en humanité. Alors, on a des posters qui présentent à la fois l'équipe de recherche et les projets qui sont actuellement portés par cette équipe de recherche. Vous avez un premier projet qui est le projet littérature arthurienne tardive en Europe, un projet mené par l'actuelle directrice donc de l'équipe, Christine Ferlampin, sur Artus de Bretagne. Deuxième projet, c'est le projet qui est porté par le GRES, qui est une équipe qui fait aussi partie donc du CELAM, autour d'une recherche sur les collections. La collection envisagée comme phénomène éditorial en Europe, mais aussi en lien avec les Amériques. Deux autres projets vont être présentés par les collègues qui vont nous succéder cet après-midi. Un projet sur photo et littérature, donc le projet FLIT porté par Jean-Pierre Montier qui évidemment, comme le nom du projet l'indique bien, étudie les liens entre photo et littérature. Et puis dernier projet, c'est le projet de recherche du groupe FI, donc un groupe de collègues qui travaillent en littérature contemporaine et dans une perspective comparatiste. Donc c'est l'ensemble de cette recherche qu'on souhaitait présenter aujourd'hui.
Et pour les auditeurs intéressés par vos recherches, où est-ce qu'on peut retrouver un peu l'actualité du laboratoire?
Alors, l'actualité du laboratoire est présente sur le site du laboratoire. Il suffit de taper CELAM, C-E-2-L-A-M, et on a immédiatement accès au site du laboratoire avec un parcours qui permet d'avoir toutes les informations.
Sur le stand Les Auxiliaires au Secours des Cultures, nous avons rencontré Johan Navas, doctorant en deuxième année à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Il nous a introduit ses travaux avec la passion mais aussi l'hésitation qui anime l'apprenti chercheur. Le festival, c'est l'occasion pour lui de prendre du recul sur ses recherches, alors même qu'il entreprend actuellement la rédaction de son premier article scientifique.
Donc là on est sur le site, le stand de l'INRA, où on montre un peu l'importance des auxiliaires des cultures pour la lutte contre les ravageurs, éviter d'utiliser les pesticides et plutôt privilégier les insectes auxiliaires pour pouvoir justement réduire, dans l'optique de réduire les pesticides, la pollution et choses comme ça, d'avoir un contrôle sur ces produits. Moi je travaille plus particulièrement sur les parasitoïdes de pucerons, donc c'est des organismes, on va dire des pseudo-guêpes, hein, ça ressemble à des guêpes, ça pique dans les pucerons et donc ça permet d'endiguer le développement des pucerons. Et donc moi j'ai commencé ma thèse il y a un an là-dessus et je travaille sur en fait les parasitoïdes qui sont généralistes, c'est-à-dire qui sont capables de parasiter une grande gamme d'espèces de pucerons.
Et qu'est-ce que tu envisages comme piste pour le futur par rapport à ce sujet de thèse? Quelles applications concrètes on pourrait y voir?
Du coup l'intérêt ce serait de pouvoir commercialiser en fait ces espèces qui sont généralistes pour pouvoir lutter contre ces pucerons et du coup pouvoir apporter en gros une solution aux agriculteurs autre que les produits phytosanitaires.
Sinon là je vois sur le stand vous présente énormément de spécimens. Tu peux peut-être m'en dire plus à ce sujet-là?
En fait là pour la plupart des collections qui sont ici, donc certaines sont réalisées réalisées, ont été réalisées anciennement, donc à l'INRA directement. Après certaines, moi c'est moi-même qui les ai fait, donc c'est de là, donc c'est des récoltes personnelles en fait. J'ai fait un BTS auparavant, donc du coup j'ai eu plus de temps et on était plus souvent sur le terrain. Donc du coup on pouvait récupérer pas mal de spécimens, aussi bien plusieurs papillons, pour voir une généralité de la diversité d'insectes qui pouvait y avoir en France.
Quoi. Le fait de vulgariser un peu le fruit de tes recherches et un peu l'avancée de ta réflexion, c'est quelque chose que t'es habitué à faire ?
C'est assez difficile, là. En plus je dois être en rédaction de mon premier article scientifique. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, c'est pas inné, quoi, voilà. Faut vraiment travailler là-dessus, ça va s'apprendre au fur et à mesure, quoi.
Est-ce que je vois aujourd'hui, là vous êtes à destination un peu des scolaires, j'imagine que pour un doctorant c'est pas forcément évident ?
Bah justement, ça permet de savoir vulgariser son domaine et c'est quand même assez intéressant puisque parler toujours avec des scientifiques, on utilise des termes que la plupart des enfants ne connaissent pas ou ne peuvent pas identifier comme termes. Et donc du coup, l'intérêt là, c'est de pouvoir après expliquer au plus grand nombre de gens ce qu'on fait et l'importance de ce qu'on fait surtout. C'est pas simplement de la recherche pour faire de la recherche, quoi.
Christophe Moy, enseignant chez Supélec et enseignant-chercheur à l'IETR, nous présente les activités du laboratoire et en profite pour envoyer un message aux étudiants qui souhaiteraient imaginer les télécommunications de demain.
Notre travail consiste à imaginer les futurs systèmes de télécommunications radio par ondes électromagnétiques. Et donc ici, nous faisons une petite action de sensibilisation des enfants à ce que sont les communications radio et on ne peut pas vraiment leur parler de recherche.
Et si je vous demande de nous en parler un petit peu plus précisément, ça pourra peut-être intéresser les étudiants qui nous écoutent.
Tout à fait. Alors dans ce sens-là, nos recherches visent à imaginer les futurs systèmes de télécommunications. Alors bien sûr, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de téléphones mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth ont envahi notre quotidien. Le but n'est peut-être plus d'en rajouter, mais de le faire de manière plus efficace, de manière à moins exposer les gens aux ondes, même si on ne sait pas si c'est dangereux. Mais n'empêche que si on peut faire la même chose sans exposer les gens, ça sera mieux. Et puis de beaucoup moins consommer d'énergie. Donc comme dans beaucoup de domaines, l'évolution des coms radio va être d'essayer d'avoir moins d'empreintes tout en assurant toujours un service qui fait que les gens sont demandeurs, les gens veulent des communications.
Et vous êtes en relation éventuellement avec des opérateurs privés pour ce genre de recherche ?
Soit effectivement on a des entreprises, alors soit des fabricants d'appareils radio, soit des opérateurs de téléphonie qui veulent étudier certains aspects et certains aspects de nos recherches peuvent aller dans ce sens-là. Soit on travaille sur des projets purement financés par le public et alors là on est plus libre d'imaginer des choses et même si ça va à l'encontre de ce qu'imaginent des opérateurs privés et notamment ça nous permet aussi de voir beaucoup plus loin. Aussi une chose par exemple c'est qu'on est impliqué dans l'IRT Bicom, installé à Rennes depuis 2 ans et qui est une structure visant à faire passer notamment certaines idées du domaine de la recherche au domaine de produits. Donc c'est aussi un milieu intermédiaire entre gérer la recherche plus à long terme fonds publics et la recherche purement privée.
Oui, j'allais dire, il y a clairement un enjeu opérationnel derrière vos recherches.
Comme nous travaillons dans une école d'ingénieurs et dans un domaine qui donne naissance à des produits industriels, il est évident que nos recherches sont assez appliquées et peuvent avoir des débouchés à court ou moyen terme, en plus de faire de la recherche à long terme. On ne peut pas dire qu'on fait de la recherche fondamentale. Et étant dans une école d'ingénieurs, il n'est pas complètement incompréhensible qu'on essaye de faire des choses qui vont être bientôt de l'ingénierie de tous les jours dans les futures entreprises. Donc, si vous voulez, effectivement, notre recherche est une recherche qui, sous certains aspects, peut s'appliquer dès aujourd'hui, dès demain, et on espère créer des emplois. Moi, par exemple, je suis actuellement, de manmanière plus ou moins éloignée, en train de travailler à 3 créations d'entreprises, si vous voulez. C'est pas moi qui les crée, mais il y a des gens qui créent des entreprises, et d'une manière ou d'une autre, on participe. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment pour créer des emplois de haute technologie, mais pas que, sur Rennes et sur la Bretagne dans les années à venir.
Vous êtes en quelque sorte un fournisseur de conseils, mais en matière scientifique, visant à assister un peu à la création d'entreprises.
Tout à fait, en matière technologique. Alors, ça peut être des entreprises qui répondent à des appels à projets sur des produits vraiment tout nouveaux. Eux-mêmes connaissent bien ce qui se fait actuellement, mais on leur demande de prévoir un peu l'avenir, et là, ils font appel à nous. Ça peut être, dans le cadre de Bicom, qui a ouvert un appel à projet en disant si, par exemple, le fruit de vos recherches depuis quelques années commence à arriver à un certain niveau de maturité, nous, on peut vous aider à le transformer en produit pour essayer de commercialiser quelque chose dans 2-3 ans. Voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles on essaye de répondre pour que nos recherches ne restent pas juste notre simple plaisir et notre travail, mais que, éventuellement, ça puisse débloquer déboucher sur des créations d'emplois. Et en France, vraiment, il faut bien imaginer que dans le domaine des télécoms, de l'informatique, on est l'un des premiers pays au monde. On n'a pas à rougir, on peut être fier et on a la possibilité de créer des emplois et de faire des choses aussi intéressantes que dans la Silicon Valley. Il faut juste qu'on y croit.
Oui, j'allais dire, c'est étonnant comme propos, puisque on a souvent tendance à entendre que la France est un peu à la traîne en matière d'innovation technologique, et vous nous dites le contraire.
Au niveau des idées, des concepts, de la recherche, la France n'est pas du tout à la traîne. On est très très présent, on est très reconnu. Mais effectivement, là, on a une difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à créer suffisamment de start-up qui les concrétisent. Et je pense que l'avenir est aux start-up plus qu'aux gros groupes. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas si on est étouffé par les gros groupes, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus croire en nos start-up qui, elles, sont capables de créer des choses vraiment en rupture. Là où les gros groupes, bah, eux, finalement, ils préfèrent asseoir leur marché actuel. Et de temps en temps, moi, je dirais qu'il faut beaucoup plus privilégier les start-up qui partent sur des idées nouvelles en rupture. Et c'est ce qui se passe dans la Silicon Valley. Vous avez des tas de start-up qui démarrent. Il y en a beaucoup qui meurent. Et celles qui vivent, bah, ça devient des champions. Et nous, il faut qu'on arrive à enclencher ça. Et je pense qu'il y a plein d'espoir. Si j'étais étudiant à Rennes aujourd'hui, je ne me dirais pas je vais arriver dans un monde où il y a du chômage et tout. Je me dirais il y a des tas d'opportunités. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait concrétiser. Mais nous, chercheurs, on n'a pas forcément l'esprit d'entreprendre. Et donc, s'il y a des élèves du campus qui, eux, ont plutôt l'esprit d'entreprendre, qu'ils aillent voir des élèves d'école d'ingénieurs, qui s'associent avec eux et que, je dirais, la technique de l'un associée à l'entreprise, la capacité d'entreprendre de l'autre, se combine pour créer des choses. Moi, je pense qu'il y a énormément de potentiel et il faut partir avec cette idée-là si on est jeune aujourd'hui.
Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Où, comment et par qui se construisent les savoirs scientifiques ? Poser ces questions, c'est en partie déconstruire le mythe du chercheur isolé dans son laboratoire, en recherche de la vérité avec un grand V. Loin d'être en dehors de toute contingence institutionnelle, s'intéresser aux pratiques des chercheurs, c'est s'intéresser notamment aux institutions qui leur permettent de produire des connaissances nouvelles. Le Festival des sciences, c'est donc aussi l'occasion de s'interroger sur les conditions de production de la science. Maud Guézot, enseignante-chercheur à l'Institut National de Sciences Appliquées de Rennes, proposait donc mardi soir à Bru un documentaire suivi d'une discussion sur ce qu'être chercheur aujourd'hui.
Donc je travaille en fait sur ce qu'on appelle la photonique, c'est tout ce qui est les photons, la lumière et le lien de la lumière avec la matière et en particulier la nanomatière à l'échelle du tout petit, donc à l'échelle nanométrique qui correspond en fait au millionième du millimètre. Donc un millimètre découpé en un million, c'est vraiment du tout petit. Donc voilà, je travaille sur ce qu'on appelle la photonique des nanotubes de carbone. Donc la lumière est mise en fait par des matériaux à une toute petite échelle.
Vous intervenez dans le cadre du festival donc, pour présenter un documentaire qui s'appelle « Laser et chercheurs », des protagonistes discrets. Ce sera suivi d'une discussion. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un peu la genèse du projet, s'il vous plaît ?
Alors l'idée, à la base, c'était justement de générer en fait, des vocations scientifiques pour les jeunes, tout en effaçant en fait, l'image un peu poussiéreuse du chercheur tout seul dans son coin. Voilà, montrer qu'en fait, un chercheur, finalement, il travaille toujours en équipe, qu'il y a une dynamique. Même si on est dans la recherche publique, on a une grande dynamique liée aux industriels, au transfert technologique vers l'industrie. Donc il y a des enjeux toujours de nos recherches vers les applications. On nous demande toujours est-ce que nos recherches servent à quelque chose et au contraire, nous aussi, ça nous motive nous-mêmes. Donc voilà, l'idée c'était de montrer vraiment notre métier de chercheur au quotidien et en même temps de donner du coup des vocations scientifiques pour les jeunes qui n'aient pas peur finalement de ce métier-là, de se dire que finalement bac plus 8, on ne voit pas le temps passer pendant ces études-là. Etc.
Ok, et nous, ce qui nous avait intéressé donc au Labomatique, c'était de voir que quelqu'un d'aussi pointu que vous sur un sujet aussi précis puisse aussi s'intéresser aux spectateurs et notamment à la connaissance un peu des conditions de production de la science et non pas simplement à la diffusion des résultats. Est-ce que c'était véritablement ça l'enjeu du documentaire que vous présentez mardi soir ?
C'est une partie, c'est vrai que c'est sur l'éthique de la recherche, là il y a toute une partie dans le documentaire, donc on touche à ce sujet et c'est vrai que c'est important de comprendre que nous on nous demande de produire des articles, ce qui est entièrement, c'est tout à fait normal, mais on n'est pas non plus une usine en fait, donc ça peut prendre du temps, après on ne sait pas forcément non plus des fois quelles peuvent être directement les applications. Il y a des recherches qui ont abouti à des applications 100 ans après. Et bon, maintenant, on roule tous avec des GPS dans nos voitures. Et s'il n'y avait pas les calculs de correction de relativité d'Einstein, bon, et à l'époque, je ne pense pas qu'Einstein il avait pensé à ça. Mais... Tout ce qui est production scientifique, il y a de gros problèmes par rapport à l'édition, etc. Quand on soumet des articles, il faut qu'on paye nous-mêmes. Il faut que les laboratoires payent. Donc, il y a des choses qu'on ne saisit pas.
Et vous essayez à travers ce documentaire là justement de montrer un peu ces mécanismes un peu obscurs, j'ai envie de dire, de la production scientifique. C'est des choses qui sont très peu connues par, j'ai envie de dire, le grand public. Les enjeux d'édition, la production d'articles, notamment aujourd'hui une logique quantitative qui tend un peu aussi à s'imposer dans le monde de l'université. Est-ce que vous essayez de parler un peu de ce genre de choses là ?
Alors comme c'était un documentaire qui a été tourné en 2010, il n'y avait pas encore tant que ça de polémique finalement à cette époque-là. Donc ce dont on touche le plus, c'est par rapport au financement de la recherche. Là, on parle beaucoup de finalement un chercheur, son rôle c'est aussi de trouver des financements, etc. Donc quelque part, mais ça se rejoint puisque c'est des problèmes d'argent que le chercheur il aimerait bien ne pas avoir ce genre de problème.
Vous posez la question justement dans le cadre du festival, c'est quoi être chercheur aujourd'hui ? Mais c'est plein de choses et c'est donc des visions qui peuvent être aussi assez différentes entre ce qu'on peut appeler les sciences dures et peut-être les sciences molles. Si vous deviez dégager quelque chose de transversal par rapport à votre documentaire, c'est-à-dire quelque chose qui touche vraiment l'ensemble des chercheurs, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter comme élément de réponse ?
Je pense qu'il faut justement qu'un chercheur, quel que soit son domaine de recherche, il faut qu'il ait conscience qu'il doit aussi diffuser justement par rapport à sa condition de chercheur, de parler de son métier, de montrer sa... En général, on est passionné quand on est chercheur, donc de montrer cette passion, d'en discuter avec, les citoyens afin qu'ils comprennent quand même que bon, la recherche, c'est important, c'est l'humanité qui en a besoin, c'est vraiment du long terme, et c'est sûr que ce n'est pas une production économique à court terme, donc c'est sûr qu'on a du mal à comprendre quand on paye des impôts où ça va, et bon, bah, ça fait partie, c'est sûr, ça va dans nos salaires, etc., mais ce n'est pas une perte de temps. Si je prends l'exemple de mon domaine de recherche, vraiment le point précis où je travaille, j'ai aucune idée si ça va être dans 5 ans ou dans 20 ans, mais ça peut aboutir à une autre thérapie du cancer. Donc je veux dire, là, ça touchera quand même beaucoup de monde. Et ce serait normalement une thérapie qui coûterait beaucoup moins cher que la thérapie actuelle et surtout avec des conséquences beaucoup moins difficiles pour les gens qui ont le cancer, qui sont fatigués par la radio, par la chimio, comme on dit. Donc là, ce serait... je pense que n'importe quel citoyen dira « Ah bah quand même, ouais, c'est sûr, heureusement qu'il y a 20 ans, on a investi là-dedans. » Mais c'est toujours après coup qu'on s'en rend compte. Donc il faut faire confiance aussi aux chercheurs. Et c'est aux chercheurs, justement, de se défendre, de montrer quel intérêt, qu'est-ce qu'ils apportent à la société. Et d'autant plus quand on est enseignant-chercheur, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on a le contact avec les étudiants en permanence. Donc là, évidemment, notre rôle, c'est de diffuser le savoir, mais aussi de diffuser une certaine philosophie, on va dire, un état d'esprit.
Et j'imagine, ça, vu le nombre d'acteurs qui gravitent autour de cette thématique-là, ça a aussi permis de largement montrer la dimension collective du travail de recherche scientifique.
2010, par rapport à ce documentaire, on fêtait les 50 ans du laser. Et pour moi, je me suis dit, je vais saisir cette occasion-là pour aller rencontrer tous les gens qui travaillent sur l'optique en Bretagne. Et déjà, en fait, il y en a beaucoup, des chercheurs bretons. Et de leur poser la question, pourquoi tu es devenu chercheur et comment tu es devenu chercheur? Ils ont tous répondu d'une façon vraiment honnête et personnelle. Et c'était ça qui m'intéressait. Après, ça les a fait réfléchir. Ils se sont dit, pourquoi pas? On n'utilise pas assez ce genre de moyens de communication, peut-être, pour parler de nous en Bretagne, de façon simple, finalement. Hein. Et je pense que ça les a fait réfléchir. Et justement, prendre du recul pour un chercheur scientifique, ça ne fait jamais de mal.
Concernant justement la confection du film en lui-même, on peut se poser des questions venant d'une chercheuse scientifique. Comment s'est effectué un peu le passage et la traduction entre des connaissances scientifiques très robustes, très pointues et la réalisation d'un film plus à destination d'un public qui n'est pas du tout expert en la matière? Donc comment s'effectue techniquement cette espèce de traduction vers la vulgarisation scientifique, mais en images, pour quelqu'un qui, j'imagine, n'est pas forcément formé, à moins que vous le soyez, je ne sais pas, mais...
Alors, moi, je ne suis absolument pas spécialiste vidéo. C'est Nicolas Satta qui, lui, est un documentariste professionnel. Hein. Il a fait plusieurs documentaires. Et moi, ayant vu ces documentaires qui n'avaient évidemment rien à voir avec la science, je lui ai proposé, je lui ai demandé, comme je connais ses talents d'artiste, on va dire, je me disais, ce rendu de l'art calqué sur la science, ça pourrait quand même mettre en valeur la science. Et il a accepté, ce qui n'était pas facile pour lui, parce qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un laser, il avait un petit peu peur de rencontrer des chercheurs scientifiques. Et en fait, il a été extrêmement ébloui de l'accueil des chercheurs pour les interviews. Il en a profité pour poser des questions, etc. Et il est devenu assez fort dans le domaine scientifique maintenant, dans la vulgarisation scientifique, on va dire. Et après, évidemment, j'étais là pour voir... pour le montage, etc., faire mes propositions. Mais tout ce qui était technique, ça, c'est entièrement lui qui a créé tout ce qui était esthétique, etc. Et c'est évidemment Nicolas Satta à qui on doit tout ce beau travail, mais c'est lui le documentariste.
J'avais une dernière question qui concerne le titre du documentaire, donc « Des protagonistes discrets ». En quoi cette interaction entre les chercheurs et le laser peut-elle être discrète, si c'est ça dont il s'agit ?
L'idée, c'est vraiment de dire, bon, le chercheur, il est tout seul, au sens où le grand public ne le connaît pas. Donc, et au final, c'est un protagoniste puisqu'il prépare l'avenir, sans savoir à quelle échéance, si c'est dans 50 ans ou dans 100 ans. Voilà, quelque part, c'est une révolution. Hein. Moi-même, qui suis dans les nanotechnologies, on s'attend à tous, évidemment, à une révolution nanotechnologique. Mais quand est-ce que ce sera? On ne sait pas. Par rapport au laser, c'est pareil. C'est vrai que le laser, le grand public se demande toujours, bon, qu'est-ce que c'est qu'un laser? Oui, d'accord, c'est un faisceau laser, ça représente, même pour les enfants qu'on voit. Et ils voient toujours le rayon lumineux. Et au final, le laser, il est toujours dans notre quotidien. Il est là au niveau des caisses pour lire les codes-barres. Il est là pour réparer la myopie. Il est là dans tous les lecteurs Blu-ray. Ça porte son nom, donc c'est un laser bleu. Et Et aussi pour Internet, s'il n'y avait pas de laser, il n'y aurait pas Internet, puisque tout se fait par fibre optique, par transmission de la lumière dans des fibres en verre. Et cette lumière, elle est émise par un laser. Donc le laser, il est là et il apporte beaucoup de choses, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'effectivement, un laser, bah, c'est rien finalement. C'est de la lumière dans une boîte. Et si on ouvre la boîte, bah, on casse le laser, donc forcément.
Le Labomatique.
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Vous étiez dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Sachez que le Festival des Sciences se tient jusqu'au 19 octobre. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.espace-science.org. Quant au Labomatique, vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.